Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, c'est le mercredi 1er mai. Ça veut dire bien que c'est la fête du travail, qu'il y a très peu de magasins ouverts, sauf les cinémas. Donc c'est l'occasion d'aller au cinéma. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour. Bonjour.
Et nous sommes en forme donc pour ce jour merveilleux. Et nous allons parler de quoi ?
Alors moi je vais vous parler de L'écume des jours de Michel Gondry, un film un petit peu réalisé sous LSD, ce qui sera super raccord avec mon propre état étant donné que je n'ai pas encore dormi. Et je vous parlerai également de Blanche Nuit, un second film français à l'affiche cette semaine.
Et toi Manu ?
Eh ben, je parlerai de Blockbuster qui est sorti donc, la semaine dernière, Iron Man 3, réalisé par Shane Black avec toujours Robert Downey Jr.
Et oui, qu'on a vu ensemble. En 3D lundi.
Et puis, lunettes et tout.
Et moi, je vous parlerai d'un biopic, Anna Arendt, qui est sorti la semaine dernière, et puis d'un film de science-fiction qui va sortir ce mercredi, Upside Down.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Et on commence donc avec L'écume des jours. Difficile de trouver meilleure équivalence à l'écriture fantasque de Boris Vian que l'imagination débridée de Michel Gondry. Demeuré inadapté au cinéma, bon, on laissera de côté la version avec Samy Frey et Marie-France Pizier. L'écume des jours attendait toujours une mise en scène digne de ce nom. Et il s'avère que l'univers foisonnant et personnel de Gondry correspond parfaitement au style surréaliste de Vian. On n'a qu'une envie à la sortie du film, relire le livre afin de démêler ce qui fut écrit par l'un et mis en scène par l'autre, détacher l'inspiration première de la réalisation. Dans un Paris imaginaire, où la noirceur le dispute à l'onirisme anachronique, Colin, bien décidé à tomber amoureux, s'est prendre de Chloé. Sur fond de jazz, les deux amoureux débutent un mariage heureux jusqu'à l'apparition d'un vilain nénuphar dans le poumon de la jeune femme. Cette allégorie florale représente bien évidemment le cancer qui va décimer le couple et leur vie rêvée. Les amitiés se délitent. Colin doit abandonner sa vie oisive et travailler pour soigner son aimé. Même leur appartement semble se rétrécir à vue d'œil. Autour du couple formé par Audrey Tautou qui retrouve la gouaille de son Amélie Poulain et Romain Duris, pas mal, en timide un petit peu gauche, on retrouve un casting très mainstream qui sent la commande à plein nez. Omar Sy qui fait un peu du intouchable. Gad Elmaleh très convaincant, en junkie shooté à l'existentialisme de Sartre. Et Aïssa Maïga qui aura peut-être un jour, après 10 ans de bons et loyaux services en tant que second rôle, le premier rôle qu'elle mérite. Alors, la rencontre entre le réalisateur et l'écrivain est-elle réussie ? La réponse est oui, mais cela aurait pu être mieux et on restera indulgent en se rappelant que peu de films français dans l'année à venir attendront ce niveau d'audace et d'inventivité. À la frénésie des faits visuels de la première partie, on préférera la mélancolie glauque de la seconde et mieux vaut s'attarder sur les trouvailles de mise en scène que sur les personnages malheureusement un petit peu survolés. Un joli film dans lequel la forme, privilégiée au fond, nous prive d'une émotion qui eût été la bienvenue pour parvenir à une adaptation totalement réussie, l'histoire d'amour étant malencontreusement mise à distance, comme si Gondry touchait là à un sujet humain qu'il maîtrisait moins bien que ses bricolages et ses délires en stop motion.
Manu, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu. J'admire le savoir-faire de Michel Gondry, mais je trouve le film assez froid, en fait. Pas beaucoup d'émotions. Et je pense qu'il y a une erreur de casting. Je pense que le film aurait été plus fort avec des comédiens qui ne soient pas connus, en fait.
À tout le monde.
C'est pas qu'ils sont mauvais, ils sont tous très bons, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Ou par exemple, Omar Sy ne me semble pas adapté à l'univers de Boris Vian, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose pour moi qui passe pas.
C'est vrai que cette histoire d'amour est vraiment rendue de manière très froide finalement, et du coup on reste assez sur notre.
C'est l'excès d'effets spéciaux du début qui fait un peu une accumulation de petits clips comme ça qui empêche à mon avis l'adhésion à l'histoire. Je crois que plus de simplicité aurait pu apporter davantage au film.
En tout cas, oui, beaucoup de découpage. Moi, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup de découpage. Alors, au début, on rentre dans le monde, mais effectivement, comme tu le dis, les personnages sont complètement effacés et on oublie complètement l'histoire. Alors après, ça semble se calmer finalement, hein, parce que quand ça devient plus dramatique, voilà, il y a moins d'effets visuels et ainsi de suite. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait moins de découpage, mais quelqu'un qui a compté les plans, en fait, voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Et bon, eh bien, ils m'ont dit que finalement, même la dernière partie, même la dernière partie, donc il y avait beaucoup de plans, il y avait beaucoup de découpage. Voilà, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Mais sinon, voilà, c'est un plaisir quand même à voir. Voilà. Après, c'est ce qu'on en pense après qui est finalement un peu. Ouais. Voilà. Donc c'est l'écume des jours et c'est visible au cinéma Diagonale évidemment et puis aussi dans tous les autres cinémas.
Et au Gaumont aussi. Ouais.
Alors, on va passer maintenant à toute autre chose. C'est un film américain. Et on va plutôt écouter le petit extrait du film.
Sérieusement, on arrête de rigoler ? Bon, alors, voilà ce que je vous demande, moi. Une immersion totale dans le milieu des artistes. Il n'allait pas croire que c'est une petite balade de santé, hein ? Amenez qu'un nom de GG. Hein ?
Je me présente, Arthur.
Blanche. Faites quoi dans la vie, Arthur ?
Je suis comédien.
Sinon, vous, vous en êtes où ?
Ah, j'ai déjà commencé à repérer certains membres de la bande, hein. Mais il me faut encore un petit peu de temps pour gagner totalement leur confiance. Si je me précipite, je vais me faire repérer.
Mais moi, j'en ai rien à foutre, hein ! Je veux le meneur de la bande, c'est tout.
On peut savoir ton petit secret ?
Le lasso. Pièce unique en crinière de la matricée.
Nobody moves before I tell you move.
What is your name ?
My name is... Mrs. Klimt.
Salut les gars.
T'es quoi cette semaine ?
Derviche tourneur. On verra avec la figuration, hein, comment on fait pour les éliminer un par un. On va faire ça à l'ancienne.
Bon, tableau là. La caisse vide.
Les Américains disent just do it. Moi j'ai plus loin. Je vous dis faites-le.
Voilà, donc ça, c'était un extrait de Blanche, la bande-annonce de Blanche, hein, que tu vas...
Blanche Nuit.
Blanche Nuit, oui, que tu vas chroniquer un peu plus tard. Et cette fois-ci, on va passer à la chronique donc de Iron Man 3.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Bon, je reconnaissais pas l'extrait d'Iron Man, hein. Ça avait rien à voir, donc je me suis dit, on n'a pas vu le même film. Alors, autant le dire tout de suite, Iron Man 3, c'est une réussite. Voilà, une des adaptations les plus convaincantes des Marvel, avec, à mon sens, les deux Spider-Man. Une réussite que l'on doit à son acteur-producteur, Robert Downey Jr., mais aussi à un réalisateur, le revenant Shane Black. Alors, qui est Shane Black ? Shane Black, c'est un peu un rescapé des années 80-90. À 25 ans, il écrit quand même L'Arme Fatale et c'est le jackpot pour lui. En un film, il crée vraiment un style qui va modifier en profondeur le cinéma d'action américain. Bon, le cocktail d'humour potage, de violence décomplexée, de scènes d'action survitaminées fonctionne à merveille. Il écrira ensuite des films que vous avez dû voir, Le Dernier Samaritain, Last Action Hero et Au Revoir à Jamais, voilà, avant de disparaître totalement de la circulation. Une carrière sur le déclin comparable d'ailleurs à celle de Robert Downey Jr., tous deux issus de la même génération. Et miracle, la résurrection de Robert Downey, on la doit à Shane Black, qui réalise son premier film en 2005, le très fun Kiss Kiss Bang Bang, une comédie policière ultra référentielle qui impose le comédien comme l'un des plus impressionnants du moment. Retrouver donc Shane Black derrière Iron Man 3 n'a alors rien de surprenant. Je ne serais d'ailleurs pas étonné d'apprendre que c'est Robert Downey qui a conseillé donc d'embaucher Shane Black. Je crois qu'il y était non crédité sur les deux premiers, sur les dialogues, entre autres. Voilà, les nouvelles aventures de Tony Stark, milliardaire cynique, égocentrique et séduisant, sont sans doute les plus jouissives de la série. Et surtout après les piteux Die Hard 5 et G.I. Joe, qu'on a vu aussi ensemble.
On était maudits.
On tient enfin une grosse machine hollywoodienne qui ne mise pas tout sur ses effets spéciaux et délires pyrotechniques. Iron Man 3 est un blockbuster qui ne prend pas le public seulement pour un tas de demeurés bouffeurs de pop-corn. Le scénario est même plutôt malin, ancré dans ce qui est plus intéressant dans les adaptations de comic books. Comme le disait Samuel
Jackson dans Incassable, un super-héros a besoin d'un alter-ego, d'une forme de double inversé, devenant une entité donnant un sens existentiel à la présence du super-héros, incarnation du bien. Le méchant est un peu sa moitié. Les crises d'angoisse de Tony Stark, sa dépression latente, qui sont très présentes dans le film, hein, sont un peu la manifestation de son sentiment d'inutilité s'il n'a personne à affronter. Conscient de sa marginalisation dans la société, en dépit de son statut, s'il n'intervient pas rapidement au devant de la scène, Tony Stark, toujours aussi arrogant, va directement provoquer le mandarin, sorte de terroriste d'opérette en guerre contre l'Amérique.
Puisqu'on approche de la fin d'année, j'aimerais envoyer des vœux au mandarin. J'attendais de trouver la meilleure façon de les formuler. Je m'appelle Tony Stark et je n'ai pas peur de vous. Je sais que vous n'êtes qu'un lâche. J'ai donc décidé que vous étiez déjà mort. Je vais venir chercher le corps. C'est pas de la politique, rien qu'une bonne vieille vengeance à l'ancienne. Y a pas de Pentagone, c'est entre vous et moi. Et au cas où vous en auriez le cran. Voilà mon adresse personnelle. 10-8-80 Malibu Point. 90265. Je laisserai la porte ouverte. Vous avez ce que vous vouliez. Facturez-le-moi.
Bon, on ne dévoilera pas le poteau rose, mais ce fanatique cousin germain, on va dire, de Ben Laden, paraît trop caricatural pour être crédible et génialement interprété par Ben Kingsley, d'ailleurs. Quelque chose, d'ailleurs, cloche dans ce personnage. Le véritable danger est ailleurs, en la personne d'Aldrich Killian, aperçu dans le prologue. Shane Black esquisse la plus belle idée du film, celle qui sous-tend la tristesse et la schizophrénie latente des films de super-héros. La conquête du pouvoir, la destruction du monde, la haine de l'Amérique ne sont que des leurres. Aldrich Killian appartient à ces êtres qui, loin d'être maléfiques au départ, ont été blessés et humiliés. Il cultive une soif de vengeance, une rancœur proche de l'irrationnel. Killian est un laissé pour compte de la science, handicapé physique en plus, qui a bien décidé de réparer une injustice en affrontant Iron Man. Il a développé une haine quasi pathologique envers Tony Stark qui vire à la folie la plus totale. D'ailleurs, Shane Black s'en mêle parfois les pinceaux dans les motivations réelles d'Aldrich Killian. On se demande d'ailleurs pourquoi il essaye de le tuer au départ. Et il aurait soudainement besoin de lui par la suite. Alors que veut-il faire aussi avec sa pseudo-armée d'indestructibles en feu, enfin, c'est une sorte d'armée comme ça, de bombe à retardement. Et malgré tout le talent de Guy Pearce, ce personnage très prometteur manque un peu d'ambiguïté. C'est Guy Pearce qui interprète le méchant. Bon, la CBMOL n'entache pas la réussite de cet excellent divertissement, drôle, enlevé et prenant du début à la fin. Shane Black dose très bien en fait toutes les scènes d'action avec des scènes plus de comédie pure. Moi, je trouve que c'est un bon divertissement qui sait aussi laisser un peu de respiration, contrairement à la plupart des blockbusters actuels.
Ça prend le temps, puis l'humour est vraiment.
L'humour est très bien. Enfin, c'est très bien écrit par Shane Black. Je pense qu'il est meilleur scénariste que réalisateur d'ailleurs. Ouais. La réalisation elle est fonctionnelle, mais ça passe bien.
Oui, mais bon, après c'est un film d'action, mais comme tu le dis, les scènes d'action en plus sont plutôt réussies.
Ah oui, là.
Donc ce qui gâche rien. Et puis j'ai l'impression que tout le monde était content quand.
On était content.
Nous on était content en tout cas. Voilà donc Iron Man 3, on peut
ne passe pas au Diago.
Voilà, on peut difficilement y échapper. En tout cas, on peut
le voir en VO quand même au Gaumont Comédie. Oh. Non, mais
oui, c'est possible.
Pas vérifié, mais en tout cas, nous on l'a vu en VF dans une salle qui était moyenne. D'ailleurs, je pensais voir un écran immense, mais non. Donc Iron Man 3 est sorti. Alors on va passer maintenant à un blind test. Mais avant de passer au blind test spécial film de science-fiction français, on va passer à la chronique de Upside Down qui sort aujourd'hui.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Le cinéma français n'est pas connu pour ses films de science-fiction et aucun pays en Europe n'a d'ailleurs trop investi ce genre cinématographique qui nécessite bien souvent des effets spéciaux et en plus d'un savoir-faire, une longue post-production coûteuse. Alors, si bien que lorsque le film suppose des effets spéciaux, eh bien, il s'agit de coproduction avec les USA, bien souvent, ou le Canada. L'un des meilleurs exemples, eh bien, c'est le cinquième élément de Luc Besson, coproduit avec les Américains et dont le budget frôlait les 80 millions d'euros. Et cela dit en passant, eh bien, c'est plus cher que Matrix, mais beaucoup moins qu'un des derniers grands films de science-fiction, Prometheus de Ridley Scott, produit pour 150 millions de dollars. La plupart des films donc, de science-fiction, et on peut inclure les films de super-héros, dépassent les 100 millions de dollars de budget. Budget récupéré quasi à chaque fois, hein, parce que quitter la Terre pour l'espace ou une autre planète, voir l'homme dans le futur, est pour le spectateur une source d'excitation. N'est-ce pas, Marine ? Upside Down, du réalisateur franco-argentin Juan Solanas, est une coproduction franco canadienne, mais avouons-le, tournée au Canada en langue anglaise et avec des acteurs anglais et américains, puisqu'on retrouve Jim Sturgis, qu'on a vu dans Cloud Atlas, enfin qui joue donc 5 rôles. Oui, c'était ça, 5 rôles. Et 6. Et Kirsten Dunst, donc l'américaine. Le réalisateur n'a pas eu l'audace de placer ici et là des acteurs français. Et si France 2, notre télévision nationale, a donné de l'argent à ce projet, c'est que dans l'équipe technique des effets spéciaux, eh bien, il y a de la force de travail hexagonale. Alors le point de départ, ou plutôt le monde présenté dans Upside Down, est plutôt réjouissant. Il s'agit de deux planètes jumelles où l'on trouve deux gravités opposées et qui tournent autour d'un même soleil à la même cadence. Donc il y a le monde d'en bas, au sol, et un autre monde à l'envers, au plafond. Voilà, imaginez-vous ça. Enfin... Ça va ? Vous l'imaginez bien ?
Oui, oui.
Un monde en bas, un monde en haut. Voilà. Alors, celui d'en bas est un monde triste, poisseux et peu éclairé. Le monde d'en haut est un monde riche, rempli de gratte-ciel et lumineux. On ne peut naviguer de l'un à l'autre, c'est interdit. Mais même si la loi des hommes et la loi de la gravité vous en empêchent, il y a quand même des solutions pour aller dans l'un et l'autre univers. Il s'agit d'utiliser de la matière inversée. Jusque-là, tout va bien. On se dit pourquoi pas. Mais comme le dit le narrateur au début du film, l'histoire qu'on va nous raconter est avant tout une histoire d'amour entre une fille d'en haut et un garçon d'en bas. Une fille douce, blonde, aux yeux bleus et un garçon brun, intelligent et sensible, mais pauvre. Oui, car il est dans le monde d'en bas. Comme la nuance n'est pas vraiment de mise, lui s'appelle Adam et elle, elle s'appelle Eden. Eh oui, voilà. Référence biblique, merci. Si la mise en scène est plutôt habile, rien de très simple à présenter deux mondes opposés dans la même image, hein, les questions de regard et de spatialisation, on peut regretter très vite des incohérences du scénario qui paraît bien léger, ce scénario. Une des scènes fondatrices du film paraît complètement improbable. On aperçoit une jonction donc, entre les deux mondes. Deux montagnes se rejoignent et les personnages sont là en chemise légère. Il y a de la neige, il y a de la glace partout. Ils ne sont absolument pas habillés pour faire de la haute montagne. Mais ils sont dans des conditions extrêmes, sans grelotter. Voilà, donc ça c'est un des aspects finalement du scénario assez mal engagé. Et même s'ils sont dans une zone interdite gardée par des barbelés rouillés, ça nous force quand même à imaginer que dans ce monde-là, il n'y a jamais eu aucun explorateur pour aller dans ces montagnes. Je veux dire, ils sont tout seuls. Enfin bon, voilà, il y a des choses assez absurdes. En dehors de quelques scènes réussies, aucun effort n'est fait pour rendre le monde crédible. Et dans un film de science-fiction, eh bien, ça ne pardonne pas vraiment. Une incohérence, ça passe, une flopée, un peu moins. L'esthétique générale se veut lécher mais apparaît parfois illusoire, surtout dans le monde opulent d'en haut qui est très lumineux et coloré. Le monde d'en bas, eh bien, on dirait juste une plongée dans les années 70 en Angleterre, un jour pluvieux. Reste donc l'histoire d'amour racontable en une ligne qui n'a pas grand intérêt, d'autant qu'on n'y croit pas, à se demander ce qu'est venu faire Kirsten Dunst dans ce romantisme extraterrestre. Le plus regrettable dans ce Upside Down, c'est toutes les promesses que pouvait laisser entrevoir cet univers si particulier. Alors il y a un petit côté Brésil, hein, puisqu'il est question de domination, de contrôle et de surveillance, mais tout cela manque de nuances et de vraisemblance. Alors même si Upside Down se laisse regarder, on retient surtout le gâchis, la maladresse de son réalisateur qui a préféré tout simplifier, même jusqu'à l'esthétique. Et Manu, tu voulais rajouter ?
Oui, c'est dommage parce que Juan Solanas avait réalisé un très très beau court-métrage qui s'appelait « L'homme sans tête ». L'histoire d'un homme sans tête qui achetait des chapeaux. Non, mais c'est vraiment un court-métrage
Il avait remporté un prix à Cannes.
Il avait remporté un prix, plusieurs ouais. même.
Ouais, mais c'est ça qui est dommage, hein, c'est qu'il a complètement raté le projet. Alors il y tenait en plus énormément, hein, je crois que il a mis 4 ans à le monter, bon, ce qui peut être assez rapide pour un film de cette ampleur. Mais voilà. Plein de raccourcis partout, histoire d'amour trop simplifiée, trop simpliste, enfin voilà. Mais ça sort quand même aujourd'hui.
Et c'est d'ailleurs la deuxième fois que Kirsten Dunst s'embrasse un mec à l'envers, en fait, dans un film. Ce qui est quand même assez rare pour être souligné, non
bon. Oui, si, elle l'a même dit, oui, effectivement, dans le dossier de presse.
Peut-être dans la réalité aussi.
On ne sait pas.
Qui sait ?
Alors passons maintenant à ce blind test donc, qui concerne les films de science-fiction français. Alors, j'ai un peu triché, hein, c'est évidemment, certains sont coproduits entre la France et d'autres pays. Premier extrait.
Il arrive que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale. La légende la recrée sous une forme qui lui permet de couvrir le monde.
Alors, cette voix rauque, il a trop fumé, on dirait.
C'est répugnant, je ne sais pas.
Donc, c'est un film de 65.
de 65.
Qui vient de la Nouvelle Vague.
Ah, c'est le Je t'aime, je t'aime.
Non.
Non,
non, c'est pas dommage. Le René, c'est Alphaville.
Ah.
Une étrange aventure de Lémy Caution, donc de Jean-Luc Godard. Voilà. Deuxième extrait.
Il n'y a plus de tigres de Sibérie. Ils se sont éteints en 2017. Le dernier est mort aux eaux de Moscou.
C'est quoi cette gamine? Une encyclopédie sur pattes?
Est-ce que c'était des clones?
Des clones de deuxième génération. Ce ne sont pas des vrais tigres, mais des copies de copies.
Ce sont quand même des créatures de Dieu. Comme tout être vivant.
Non, ces tigres sont des biomachines créées par la main de l'homme.
Mais Dieu a fait l'homme à son image. Alors tout ce que l'homme crée est aussi l'expression de la volonté divine.
C'est ça que vous l'avez enseigné au couvent? Si Dieu a fait l'homme à son image, ça doit être un sacré connard.
Voilà, des bons dialogues, c'est Vin Diesel qu'on entend avec sa voix française. Et donc, ça a été trouvé par Bruno, c'est Babylone AD de Mathieu Kassovitz, un film franco-tchéco-américain.
Est-ce que vous vous rappelez à quoi ressemblait le monde avant la quasi-immortalité?
La quoi?
La télomérisation. Le renouvellement sans fin des cellules. Comment c'était? Je veux dire quand les humains étaient mortels.
Il y avait des autos qui polluaient. On fumait des cigarettes, on mangeait du beefsteak, on faisait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans ce trou à rats, et c'était merveilleux. La plupart du temps, à l'époque, il ne se passait rien. Comme dans un film français.
Voilà, bon dialogue. Et alors, c'est un réalisateur belge. Mr. Nobody de Jaco Van Dormael.
Ah, voilà. C'est de la science-fiction.
Oh bah oui, parce que...
C'est pas américain plutôt.
Ah oui, si. Oui, science-fiction, oui. Anticipation, c'est parce vrai, que c'est le dernier, oui. Dernier Rome, enfin voilà.
Oui.
Parce que sinon tous les autres, l'immortalité a été inventée en
c'est
fait,
vrai.
Si je puis dire. On passe au dernier extrait, alors là j'ai un peu triché parce que c'est juste un film qui va dans l'espace. Voilà.
Allez-y lieutenant.
Bonjour Enrico.
Bonjour capitaine, bonjour commandant et bonjour à tout l'équipage.
Mais c'est
Ouais, c'est Enrico Macias qui nous a prêté sa voix pour l'ordinateur de bord. C'est un ami personnel du directeur de la communication. Tout sympa, non?
Tout marche bien, navette, commandant.
Merci Enrico.
Et voilà, Al, qui a la voix d'Enrico Macias. Donc c'est...
Un ticket pour l'espace.
Tout à fait, de Olivier Ekad. Voilà, c'était ce blind test spécial cinéma de science-fiction français. Et nous allons maintenant écouter Marine.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Et on passe donc à Blanche Nuit de Fabrice Sébille. Blanche Nuit est un projet particulier puisqu'il a été tourné à l'initiative du collectif Un Nouveau Regard, qui est une troupe de 200 comédiens, musiciens et techniciens, tous travaillant dans le milieu du cinéma. Un film participatif, donc dans lequel même la famille du réalisateur aura été impliquée et qui s'est tourné en 2 ans de façon pratiquement bénévole. Le réalisateur Fabrice Sébille s'initie son premier film, comédie décalée au rayon de films policiers, dans lequel Arthur, nouvellement devenu flic, se retrouve aux prises avec une enquête dont il n'a que faire. Il voudrait retrouver son père, un fantomas encore en activité, mais se retrouve à la poursuite d'un gang de militants de l'art, auquel on reproche de nombreuses actions terroristes. Un seul moyen pour leur mettre la main dessus, infiltrer le milieu artistique, parce que c'est bien connu chez les artistes, tout le monde se connaît, et utiliser pour cela sa rencontre avec une belle chanteuse de jazz. Blanche Nuit est un hommage à la fois au film de Melville, au film noir et au polar burné de Olivier Marchal, le tout baignant dans une musique de jazz lancinante et des teintes contrastées évoquant l'univers de la BD. Si on ne ressent pas l'impression d'être devant un grand film, c'est probablement que l'humour absurde dont il use ne marche qu'à moitié, entre parodies de genre, satire du milieu artistique et alternatif et gags où planerait presque l'ombre des nuls, presque. Le tout semble trop ringard et trop peu assumé pour nous faire réellement nous esclaffer. Le scénario ne sachant pas sur quel pied danser, on hésite à se prendre au jeu, tant les raccourcis sont grossiers et la réalisation sans finesse. Une impression de coups humains pas très bien finalisés où l'absence de moyens se ressent, alors qu'elle devrait être contrebalancée par une créativité démultipliée. Pardon. Tout cela s'ajoutant à des comédiens qui sentent davantage le téléfilm que le conservatoire. On retrouvera notamment Delphine Rollin, qui incarne le rôle titre et que l'on connaît surtout pour avoir joué dans la série Ligne de vie.
Qui a été
tournée à Montpellier.
Voilà, c'est pour ça qu'on en parle, hein, sinon... on ne parlerait pas.
Et voilà. En fait, je parle de ce film vraiment parce qu'il sort cette semaine, mais je dois avouer que ça n'a pas grand intérêt. C'est mignon, ce n'est pas raté, mais c'est un petit film. Et voilà, et c'est à voir quand même au Diagonale.
Eh bien, merci. Ben oui, ben merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire un tout petit mot sur peut-être Grizzly, ou alors je passe à Hannah Arendt. Je vais passer à Hannah Arendt.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Comment filmer la pensée ? C'est à peu près la problématique de ce biopic de Margaret von Trotta sur Hannah Arendt qui s'intitule simplement Hannah Arendt. Alors qu'il s'attache plus précisément sur la période où Arendt assiste au procès du nazi Eichmann et doit ensuite en rendre compte dans le magazine New Yorker. Alors il s'agit de 4 années de la vie de la philosophe qui, suite à cette série d'articles polémiques, écrira un ouvrage Eichmann à Jérusalem, qui n'a rien à voir avec Martine se baigne dans la mer morte, et qui est sous-titré Études sur la banalité du mal, le fameux concept qui vaudra entre autres à Hannah Arendt, qui avait fui le nazisme, une accusation d'antisionisme par les médias et les personnalités juive et même elle sera accusée de sympathie pour Eichmann. Tout ça est visible dans le film de von Trotta, autant que le portrait d'une femme intellectuelle, une femme forte, amoureuse sûrement, si délicate avec ceux qu'elle aime et qui lui sont proches et qui ne cesse pourtant d'être accusée d'insensibilité quand il s'agit de penser. Alors si Nietzsche nous annonçait que la pensée venait en marchant, chez Arendt c'est plutôt en fumant. À en croire von Trotta, la pensée d'Arendt était stimulée par la cigarette, une cigarette qu'elle avait au bec dans toutes les situations, cours à la fac, allongé sur un canapé en train d'écrire ou pendant les petites réunions entre amis. Alors, plus qu'un film sur la pensée, Hannah Arendt de Margaret von Trotta est une vision du milieu intellectuel new-yorkais, comme un regard bienveillant sur une femme qui a dû combattre l'idéologie sioniste, une femme pour qui penser éloignée du mal, ce mal perpétré par un Eichmann affreusement banal, victime d'un régime nazi qui a aboli la volonté. Alors, on voit aussi en flashback les amourettes de jeunesse d'Arendt et d'Heidegger, le penseur du Dasein, y est presque ridicule et ressemble, enfin, moi, c'est ce que j'ai vu à s'y méprendre, à Edwy Plenel, donc moi ça m'a beaucoup amusé, hein, ça m'a permis de faire passer la pilule de ces séquences emplies de romantisme fade et qui nous ramène plus au biopic qu'au projet original qui était donc filmer la pensée. Hannah Arendt n'est pas forcément un mauvais film, hein, mais sa facture classique, ses longues tirades peuvent embarrasser, la lourdeur de la mise en scène, à part quelques moments où la caméra se pose dans le silence sur le visage de la philosophe, eh bien, nous donne l'impression de voir un téléfilms sont trop d'envergure. Voilà. Hannah Arendt est sortie déjà la semaine dernière. Il continue à être projeté au cinéma Diagonale.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Pardon, Marine ?
Ça a l'air très bien.
Bon. Aussi bien que le Grizzly, je pense.
Voilà. Marine a chaussé ses lunettes noires, donc on approche de la fin de l'émission. Bon, alors on passe à l'agenda. Jeudi 2 mai, c'est demain, à 19h50, au Diagonale, il y aura l'avant-première de Post Tenebras,
hein, Lux.
De Carlos Regadas, qui a remporté un prix, c'était quoi ? C'était la mise en scène ou je ne sais quoi, à Cannes.
Oui.
Donc la séance sera suivie du débat avec le collectif Alba Amérique Latine dans le cadre du cycle de cinéma latino-américain, hein, qui va se dérouler du 2 au 30 mai. En ciné-débat Le Bonheur, ce sera le 2 mai à 20h30. Ce sera du côté donc du ciné Mistral à Frontignan dans le cadre du Festi Bonheur, la projection du film Happiness Therapy de David O. Russell. Alors c'était en VF, pourquoi, je ne sais pas. Suivi d'un débat animé par Corinne Causseron. Et c'est très intéressant puisque Corinne Causseron est la fondatrice de la première école de rire et de bonheur au monde. Et elle a inventé la rigologie. À tel point qu'il y a un R de Registered Mark à côté de rigologie. Voilà, on ne peut pas l'utiliser comme ça sans en demander l'autorisation. Lundi 6 mai à 20h au Diagonale, Roger McDowen, condamné à mort de Nicolas Palais. Donc c'est une séance suivie de débat avec le collectif contre la peine de mort et Amnesty International. Et ce sera en présence du réalisateur. Ensuite, le mardi 7 mai au Ciné Mistral, un ciné-débat à la place du travail dans nos vies. À 19h, Gagner sa vie de Laurent Kirsch en sa présence. À 20h30, c'est un apéro tiré du sac, de votre sac, donc amenez ce que vous voulez. À 21h, c'est J'ai très mal au travail de Jean-Michel Carré. Et puis on termine avec une autre avant-première, celle de Ken Loach. C'est un documentaire, L'esprit de 45. Ce sera à l'Utopia et cette projection sera suivie d'un débat avec l'équipe des rencontres La classe ouvrière, c'est pas du cinéma.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Nous étions là le 1er mai, nous serons là le 8 mai.
Hein, sans moi.
Autre jour férié, mais sans
moi,
Manu.
Apparemment, Manu ne sera pas là. Juste après, suivre l'émission 24 notes secondes, consacrée cette semaine à la trilogie Omen.
La malédiction, hein, en français.
Merci, Manu.
C'est à Cinérama.
À la prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.